et bienvenue dans le podcast Hacker News Daily présenté par Brie. Je suis Claire Martin.
Et moi, Nicolas Moreau. Au programme aujourd'hui, les entreprises d'IA qui dissimulent une dette colossale hors de leur bilan.
Une thérapie d'édition génique à plus de 800 000 dollars qui tourne mal, un F-16 piloté par intelligence artificielle et la possible découverte de la toute première exolune.
Sans oublier les panneaux solaires de balcon bientôt autorisés en libre installation au Royaume-Uni. On y va.
Un article de Futurisme relayé sur Hacker News révèle que des entreprises d'intelligence artificielle dissimulent une dette considérable en dehors de leur bilan. La discussion qui s'en est suivie est fascinante, car elle oppose deux visions radicalement différentes du risque financier.
D'un côté, certains commentateurs avertissent que si l'efficacité des grands modèles de langage s'améliore au point de rendre les centres de données actuels obsolètes, ces paris financiers massifs ne seront tout simplement pas rentables. L'infrastructure d'aujourd'hui pourrait devenir un actif échoué.
De l'autre côté, d'autres participants rétorquent que l'histoire suggère exactement l'inverse. Ils citent le charbon, le pétrole et le photovoltaïque. Quand l'efficacité d'une ressource augmente, son utilisation a tendance à exploser plutôt qu'à diminuer.
Et puis un commentaire vient nuancer ce débat en rappelant une réalité structurelle. L'intelligence artificielle est actuellement si lourdement subventionnée que le prix des jetons est totalement déconnecté du coût réel. Dans ces conditions, le gain d'efficacité devient moins déterminant pour l'équation économique.
Passons à un autre sujet. Politico rapporte que des fondateurs de start-up technologiques exhortent le gouvernement américain à ne pas couper l'accès aux modèles d'IA chinois à poids ouvert. Sur Hacker News, la discussion s'est rapidement portée sur la capacité juridique du président Trump à prendre une telle mesure.
Un commentateur affirme clairement que cela n'entre pas dans ses pouvoirs. Un autre avance une hypothèse plus radicale. Il pourrait ordonner de considérer la possession de ces technologies comme une trahison punissable. Mais un interlocuteur répond immédiatement qu'il ne peut pas créer de loi.
Dans la même veine, un billet de blog soutient que les arguments contre l'intelligence artificielle open source sont mauvais. La discussion qui en découle s'étonne qu'un responsable des politiques publiques d'OpenAI, Dean Ball, figure parmi ceux qui s'opposent à l'open source.
Changeons de registre avec une affaire profondément troublante. Des parents ont payé plus de 800 000 dollars pour une thérapie d'édition génique destinée à traiter leur fille. Elle est décédée.
Sur Hacker News, des commentateurs soulèvent de graves problèmes éthiques. Ils estiment que les chercheurs ont minimisé les risques d'une thérapie inédite qui devait agir à l'intérieur du cerveau. Un environnement extraordinairement complexe et sensible.
Il relève surtout que des effets secondaires similaires avaient été constatés lors d'expérimentations sur des singes et que ces signaux semblent avoir été ignorés. Un parallèle est fait avec un précédent célèbre, l'essai clinique du TGN-1412.
Dans cette affaire, des patients avaient subi une réaction immunitaire sévère et avaient failli mourir. Pour les commentateurs, cet antécédent illustre la dangerosité de poursuivre malgré des signaux annonçant une mauvaise réaction immunitaire chez l'humain.
Une histoire de sécurité de compte qui fait froid dans le dos. Un client de Namecheap, le registraire de nom de domaine, rapporte une faille inquiétante dans leur procédure de vérification.
Voici ce qui s'est passé. Le contact entrant d'un club universitaire souhaitait modifier les DNS d'un nom de domaine. Ce domaine était enregistré au nom et à l'adresse du client, mais le contact du club a demandé une réinitialisation de mot de passe.
Le titulaire du compte réagit immédiatement. Il ouvre un ticket d'assistance pour signaler qu'il n'est pas à l'origine de cette demande. Namecheap l'appelle alors pour vérifier son identité, ce qui semble être une procédure correcte.
Sauf qu'ensuite, Namecheap se contente d'envoyer un simple email de conseil générique. Et c'est là que tout bascule. Le contact du club appelle l'assistance et parvient à convaincre Namecheap que le domaine lui appartient.
Et sans aucune vérification supplémentaire, Namecheap modifie le mot de passe et l'adresse email du compte. Le titulaire légitime perd le contrôle de son domaine, alors même qu'il avait explicitement alerté le registrar d'une tentative frauduleuse.
Terminons par une innovation technique. Le créateur Adam Rida a dévoilé Echo, un système expérimental qui assemble un ensemble de modèles OpenWIT, au lieu de recourir à un seul modèle pour toutes les tâches.
L'idée est née d'une expérience simple mais puissante. Il a pris plusieurs modèles, parmi lesquels GLM 5.2 et Kimika 2.7, les a soumis aux mêmes évaluations, puis a mesuré ce qui se produirait si l'on savait d'avance, pour chaque problème, quel modèle serait utile et comment combiner leurs sorties.
Ce système hypothétique obtenait des performances nettement supérieures à celles d'un modèle isolé du même ensemble, mais il reste indéployable en l'état, puisqu'il dépend d'une connaissance a posteriori des bonnes décisions.
Echo tente de récupérer une partie de cet avantage sans disposer de cette information préalable. Pour chaque requête, le système décide de la quantité de calcul à allouer, détermine quel modèle participe et choisit comment leur travail doit être agrégé.
Certaines invites ne nécessitent qu'un volume d'inférence relativement faible, tandis que d'autres en exigent davantage. L'auteur présente Echo comme capable d'atteindre des résultats de classe fable pour un tiers du coût. Une approche qui change la manière de penser l'inférence. La DARPA et l'US Air Force ont franchi une étape symbolique dans le développement des avions de combat autonomes. les deux institutions ont mené avec succès un vol d'essai d'un F-16 entièrement contrôlé par une intelligence artificielle.
L'annonce a été relayée sur Hacker News, mais elle reste pour l'instant assez sobre en détails techniques. On ne connaît ni l'algorithme précis utilisé, ni la durée du vol, ni le lieu exact de l'essai.
Ce qui est clair, en revanche, c'est que ce test s'inscrit dans un effort plus large du Pentagone. L'objectif est de développer des systèmes de combat collaboratifs et des ailiers autonomes capables d'épauler, voire de remplacer, des pilotes humains lors de missions à haut risque.
C'est la trajectoire que le département de la défense américain poursuit depuis plusieurs années, faire voler des chasseurs sans pilote aux côtés d'avions pilotés pour saturer les défenses adverses ou prendre des risques qu'on éviterait à un équipage humain.
Et ce vol d'essai du F-16 contrôlé par IA, même sans les détails, montre que cette vision progresse concrètement. On passe des simulateurs et des drones légers à un véritable avion de combat.
Un signal, donc, mais à interpréter avec prudence tant que les données complètes ne sont pas publiées. La DARPA et l'Air Force n'ont pas encore ouvert le capot sur ce qui s'est réellement passé dans le ciel ce jour-là.
Direction l'espace, maintenant, et plus précisément à environ 400 années-lumière de la Terre. Des astronomes pourraient avoir repéré la toute première exolune, une lune en orbite autour d'une planète située en dehors de notre système solaire.
L'annonce vient de l'Observatoire européen Austral et repose sur les observations du réseau ALMA, ce formidable ensemble de radiotélescopes installés dans le désert d'Atacama au Chili.
Ce que les astronomes ont détecté, c'est ce qu'on appelle un disque circumlunaire. Imaginez une vaste structure de gaz et de poussière, un peu comme un disque en miniature, qui entoure une jeune planète géante gazeuse. Et c'est dans ce genre de disque que des lunes peuvent naître et se former.
La planète en question, c'est PDS-70C, une géante gazeuse encore en formation dans le système PDS-70. C'est autour d'elle que ce disque circumlunaire a été repéré par ALMA.
Il faut être précis, l'existence d'une lune n'est pas encore confirmée. Les astronomes continuent d'analyser le signal. Ce qu'ils ont pour l'instant, c'est la signature d'un disque où une lune pourrait être en train de se former. Ce n'est pas encore la photo d'une exolune.
La suite va consister à pointer à nouveau les télescopes vers PDS-70 pour déterminer si un objet est effectivement en train de s'agréger dans ce disque. Si c'est le cas, ce serait une première absolue. Jamais on n'a observé la naissance d'une lune autour d'une planète extrasolaire.
Et au-delà du symbole, cela donnerait aux scientifiques une fenêtre unique sur la façon dont les lunes se forment dans d'autres systèmes planétaires, pour comparer avec ce qui s'est passé autour de Jupiter ou de Saturne il y a des milliards d'années.
On reste sur Terre avec une nouveauté qui concerne l'énergie solaire à petite échelle. À partir de la fin du mois d'août, les ménages britanniques seront libres d'installer des panneaux solaires de balcon en fichable, selon The Guardian.
Ces panneaux solaires de balcon, c'est une solution simple. On les fixe sur la rambarde, on les branche directement sur une prise domestique, et l'électricité produite alimente le logement. Pas besoin d'installateurs professionnels ni de lourdes démarches administratives, du moins au Royaume-Uni avec cette nouvelle réglementation.
Ce qui change à la fin août, c'est que les ménages britanniques n'auront plus à obtenir d'autorisation préalable pour ce type d'installation. Une barrière réglementaire qui saute et qui pourrait accélérer l'adoption de cette solution.
Aux États-Unis, en revanche, la situation est beaucoup plus contrastée. C'est un patchwork. La pratique est légale dans certains États, comme l'Utah, mais elle reste bloquée ou floue dans beaucoup d'autres.
Des projets de loi émergent dans plusieurs législatures d'État pour changer cela. La Virginie et l'État de Washington notamment travaillent sur des textes visant à légaliser le solaire en fichable. L'idée est la même, simplifier l'accès à l'énergie solaire pour les particuliers.
Et derrière cette dynamique, il y a un vrai enjeu. Ces panneaux de balcon ne remplacent pas une installation complète en toiture, mais ils permettent à des locataires ou à des habitants d'appartements de produire une partie de leur électricité sans dépendre d'un propriétaire ou d'une copropriété.
Terminons avec une réflexion qui fait écho à l'actualité de l'intelligence artificielle. L'écrivain Neil Stephenson a publié un article pour défendre l'écriture manuscrite en expliquant qu'elle est bénéfique pour le cerveau. Et cet article a déclenché un débat intéressant sur Hacker News.
Des commentateurs ont fait un parallèle avec le codage sans LLM, ces grands modèles de langage. Leur raisonnement, de même qu'écrire à la main stimule le cerveau, coder sans assistance par IA serait également bon pour le cerveau, pour la réflexion et l'apprentissage.
Et ce qui est frappant, c'est l'anticipation qu'ils formulent. Ils prédisent que d'ici 5 ans, des études à long terme confirmeront cet impact cognitif. Oui, coder sans LLM entretient des compétences que l'assistance par IA pourrait atrophier.
Mais ces mêmes commentateurs ajoutent un bémol important. Ils estiment que même si ces études confirment le phénomène, l'utilisation des LLM ne diminuera pas pour autant.
La comparaison qu'ils utilisent est évocatrice. C'est comme la malbouffe ou l'alcool. On sait que ce n'est pas idéal pour la santé, on connaît les risques, et pourtant la consommation persiste. Le confort et l'efficacité immédiate l'emportent sur les considérations à long terme.
C'est une analogie qui mérite réflexion. Si coder avec un LLM devient aussi pratique que commander un plat préparé, est-ce que les programmeurs résisteront à la tentation ? Même en sachant que cela pourrait affaiblir certaines de leurs capacités cognitives.
Le débat est lancé, et il ne concerne pas que les développeurs. La question de ce que l'on perd quand on délègue une tâche cognitive à une machine traverse tous les domaines, de l'écriture à la navigation en passant par le calcul mental.
On revient d'abord sur un débat qui dure depuis 15 ans, le chiffrement de bout en bout et le phénomène dit du « going dark ». Un article de recherche publié cette semaine fait le point, et la communauté Hacker News a largement réagi.
Et dans ses réactions, un contributeur a signalé quelque chose d'assez concret. Il travaille depuis 6 mois sur un projet qui vise à démocratiser le MTLS, l'authentification mutuelle en TLS, en proposant du chiffrement de bout en bout post-quantique avec des identités lisibles par un humain.
L'approche est intéressante. Elle repose sur l'enregistrement d'un nom de type DNS, valable un an. Une fenêtre de renouvellement de 3 mois est prévue après expiration, et passé ce délai, le nom est libéré.
Et ce qui est malin dans cette conception, c'est que le système est pensé pour rendre le commerce de noms non rentable. L'objectif affiché, c'est de décourager les spéculateurs qui voudraient accaparer des identités pour les revendre.
C'est une brique qui manquait dans l'écosystème du chiffrement. Avoir des identités à la fois robustes sur le plan cryptographique, post-quantique qui plus est, et facilement lisibles par des humains, sans que le système ne soit gangrené par la spéculation.
Changeons de sujet. Dex Horty a publié un article qui fait pas mal de bruit, intitulé « Why Software Factories Fail ». Sa thèse centrale, les équipes qui obtiennent les meilleurs résultats avec l'IA en codage étaient déjà très disciplinées et appliquaient une bonne hygiène de développement avant l'arrivée des grands modèles de langage.
Et il va plus loin. Il affirme que pour bien coder avec des LIM, il faut encore plus de rigueur, plus de discipline et plus d'exigence qu'avant. Le vrai problème, selon lui, ce n'est pas un manque de compétences techniques, c'est un manque d'effort.
Un commentateur de niveau 1 sur Hacker News partage ce constat et il ajoute un exemple concret. Il mentionne une expérience d'usine logicielle sans humain menée par StrongDM, une initiative qui visait à automatiser entièrement la production de code.
Et le résultat est pour le moins surprenant. Cette expérience a donné naissance à une société de conseil nommée Diffusion. Autrement dit, même en poussant l'automatisation à l'extrême, la boucle a fini par produire du conseil humain.
C'est assez ironique. L'usine sans humain a généré une entreprise dont le produit, c'est précisément l'expertise humaine. L'argument de Dex Horty trouve là une illustration frappante. La discipline et l'effort restent irremplaçables.
Autre sujet, un développeur a découvert que les comptes ChatGPT Business, lorsqu'ils sont issus de la mise à niveau d'un compte personnel, ne proposent pas d'export de données aussi simplement que les comptes personnels ou Enterprise.
C'est un angle mort surprenant. Sur les comptes personnels et Enterprise, OpenAI propose une fonctionnalité d'export des données, mais la version business, dans ce scénario de mise à niveau, ne l'expose pas de la même manière.
Face à ce constat, ce développeur a fait ce que font souvent les développeurs. Il a publié sur GitHub un petit outil nommé Scribe Me Chats. Il permet d'extraire ses propres données de conversation depuis un compte ChatGPT Business.
L'outil est présenté comme une solution de contournement pour les utilisateurs qui se retrouvent coincés dans cette zone grise entre le compte personnel et le compte Enterprise, sans l'interface d'export standard.
Ça soulève une question intéressante sur la portabilité des données. Quand on passe d'un compte personnel à un compte business, on s'attend à conserver le même niveau de contrôle sur ses conversations. Visiblement, ce n'est pas toujours le cas.
Terminons avec une histoire qui montre à quel point le scrapping sauvage peut faire des dégâts collatéraux. Le site TheNumbers.com, qui suit les données du box-office depuis 1997, a vu ses graphiques et tableaux historiques saccagés en quelques minutes.
Voici ce qui s'est passé. Un scrapper massif a déclenché un pare-feu applicatif configuré de façon très agressive. Ce pare-feu a alors bloqué toutes les adresses IP non américaines et s'est mis à exécuter à grande échelle du contenu JavaScript conçu pour empoisonner les données des aspirateurs.
Et le problème, c'est que le robot scrapper ne lisait pas les fichiers robots.txt. Résultat, il a ingéré ces données corrompues en quelques minutes seulement. Les données historiques du box-office se sont retrouvées polluées. Le propriétaire du site, Bruce Nash, a dû restaurer le site via une sauvegarde et lever le blocage des IP étrangères.
Bruce Nash reconnaît d'ailleurs un risque de conséquences imprévues pour les utilisateurs légitimes. Quand un pare-feu réagit de manière aussi agressive, ce sont les vrais utilisateurs qui peuvent se retrouver bloqués ou exposés à du contenu empoisonné. C'est une escalade où tout le monde perd. Un article qui fait parler sur Hacker News, Building on AT Proto, signé Luc Canis. Le texte lui-même a déclenché une discussion plus large sur les motivations à publier en ligne.
Et c'est un commentaire qui a mis le feu aux poudres. Un utilisateur iniq pose une question assez brute. Quel intérêt de publier si on ne cherche pas à devenir influenceur? Il estime que la nature du jeu a changé et que ça décourage purement et simplement la publication.
La réponse de Steve Adam après un 6 est cinglante. On pourrait dire exactement la même chose de la publication hors ligne. Et il ajoute qu'on peut très bien publier simplement par plaisir, sans que ça ait d'importance, sans influencer qui que ce soit.
Et c'est là que Verdverm rebondit avec un exemple très concret. Il explique avoir quitté les réseaux sociaux pour se lancer dans la création de zines, une pratique qui colle parfaitement à cette idée d'une activité solitaire, désintéressée, presque artisanale.
Les zines, ces petits fascicules autopubliés, incarnent exactement cette philosophie. Créer pour créer, sans algorithme, sans métrique, sans audience à satisfaire.
Et puis il y a ce commentaire de Polymer8C563 qui tranche net, il qualifie le post initial de prise la moins humaine qu'il ait jamais vue sur le site. La formule est forte, mais elle résume bien le clivage, d'un côté une vision utilitariste de la publication, de l'autre le simple geste de partager.
Une discussion qui, au fond, interroge notre rapport à la visibilité en ligne. On passe à un tout autre sujet.
One CLI, c'est le nom d'un nouveau projet open source présenté sur Hacker News, créé par Jonathan et Guy. Leur idée, résoudre un vrai casse-tête de sécurité avec les agents IA.
Le problème est connu, quand un agent IA appelle un service externe, il a besoin de secrets, de mots de passe, de clés, et lui fournir ses identifiants réels, c'est un risque énorme.
OneCLI se place comme une passerelle de coffre-fort entre l'agent et le service. Le principe, l'agent utilise des identifiants fictifs, la passerelle les remplace par les vrais secrets, sans jamais les exposer à l'agent.
Et avant de transmettre la requête, OneCLI vérifie l'autorisation de l'agent, par hôte et par chemin. Si l'agent n'est pas autorisé, la requête ne passe pas.
Côté stockage, les secrets sont chiffrés au repos à l'intérieur du coffre OneCLI, mais le système peut aussi les récupérer en temps réel depuis des portefeuilles existants, comme Bitwarden ou AnPassword.
L'approche est intéressante parce qu'elle ne cherche pas à réinventer la gestion de secrets, elle s'intègre aux solutions que les développeurs utilisent déjà, tout en ajoutant une couche de contrôle spécifique aux agents IA.
Le code est disponible en open source et le positionnement est clair, garder les secrets hors de portée des agents sans ralentir les flux de travail automatisés.
Autre projet dévoilé sur Hacker News, Witchu, un invite de commande multi-shell, sans configuration, écrit en zig.
Le créneau est chargé, les invites de commande personnalisées ne manquent pas, mais Witchu promet le zéro configuration, et ça parle aux développeurs fatigués de bricoler des fichiers de paramètres.
La discussion dévie rapidement sur la méthode d'installation. Le projet propose le classique curl, hash, et un commentateur monte au créneau, il faut forcer la lecture du script avant de l'exécuter.
Un autre utilisateur lui répond avec un certain pragmatisme. Même après inspection du script, dit-il, l'utilisateur exécute de toute façon un binaire non audité. Le risque du curl hash est souvent exagéré par rapport au lancement de l'exécutable lui-même.
Le débat est classique mais il reste vif. Et au-delà de la sécurité, un participant trouve l'outil trop opiniâtre, sans amélioration notable ni de performance, ni de simplicité.
Et puis il y a ce commentaire qui contraste complètement. Un utilisateur qualifie simplement le projet de génial et ajoute « un choix historique », un bel éloge pour un outil qui divise. On en retient surtout un rappel, les goûts en matière de terminal sont éminemment personnels.
Voilà qui clôt cet épisode. On a parcouru pas mal de terrain aujourd'hui et certains sujets méritent qu'on y revienne.
Oui, entre cette histoire de dette hors bilan des entreprises d'IA et cette thérapie génique à 800 000 dollars qui n'a pas fonctionné, il y a de quoi réfléchir.
Sans oublier ce F-16 piloté par IA que la DARPA et l'US Air Force ont fait voler avec succès. Un test parmi d'autres, mais le cap est clair.
Et puis cette règle au Royaume-Uni, les panneaux solaires de balcons enfichables enfin autorisés sans paperasse. Une petite révolution silencieuse pour les locataires.
On a aussi évoqué ce client de Namecheap dont le domaine a failli être détourné et la réponse du support qui laisse un drôle de goût. La sécurité des DNS, c'est jamais anodin.
Ah, et Echo, ce prototype d'Adam Rida qui assemble des modèles open weight. Pas de modèle unique, juste une chaîne bien pensée. Une autre façon d'aborder l'IA.
Enfin, mention spéciale à cette possible première exolune. Les astronomes restent prudents, mais si ça se confirme, c'est une sacrée découverte.
Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve au prochain épisode.
À bientôt.